الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
verset 30. Donc, et dans d'autres versets, il met en évidence, en exergue cette fitra de l'homme. Fitra Allah allati fatara an-nasa 'alayha. C'est dans sourate Ar-Rum ça. La nature propre à l'homme selon laquelle Dieu a créé les hommes. La tabdila li khalq Allah. Il n'y a pas de modification dans la création de Dieu. Cette fitra, elle est là chez tout individu, même si par le milieu socio-culturel il renie l'existence de Dieu, mais enfuit en lui-même, il y a la fitra. Qui dit quoi? Qu'il y a créateur. Qu'il y a une origine, celle qui a une création et un créateur qui a la façonné. Donc, et puis vous avez le hadith de Rasulullah que vous connaissez tous et toutes, qawlu alayhi sallam, kullu mawludin yuladu ala al-fitrati. Tout individu, il naît avec une disposition naturelle. Cette disposition, c'est de croire en l'existence d'un créateur. فَأَبَوَاهُ يُهَوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ dans la version. Donc, ce sont ses parents, c'est le milieu socio-culturel qu'il faut de lui, un juif, un chrétien ou un mazdéen. Et puis, dans un autre hadith, le prophète rajoute, il dit, voyez-vous, la bête, lorsqu'elle elle naît, elle vient au monde, elle est parfaite. Est-ce que vous voyez en elle une quelconque imperfection? Eh bien, c'est l'homme aussi. Et donc là, il parle de l'influence du milieu. Mais la fitra de l'homme l'appelle à croire en l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ici, il y a un livre très intéressant d'un autre prix Nobel des années 40 qui s'appelait Henri Bergson. C'est un philosophe français. Et il a écrit un livre qui est très intéressant qui s'appelle Les deux sources de la morale et de la religion. Les deux sources de la morale et de la religion, cet ouvrage, il n'est pas sur le marché, on le trouve dans les bibliothèques spécialisées universitaires et autres. Donc, Henri Bergson, donc les deux sources de la morale et de la religion, il dit, il parle en sa qualité d'anthropologue ici, spécialiste de l'histoire de l'homme. Il dit, on a trouvé chez les peuplades, qu'elles soient les plus primitives ou les plus évoluées, on a trouvé certains d'entre eux qui n'avaient pas de notion de l'art. ART, de l'art ou d'une connaissance scientifique, on a trouvé, mais on n'a pas trouvé un peuple, qu'il soit primitif ou évolué, absence de croyance. Toujours on a trouvé une croyance, n'importe quelle forme, mais on a trouvé les gens croire. On a toujours trouvé les gens croyants, qu'il s'agit de peuples très avancés ou de peuples retardés. Et ça met en cause un peu la théorie de Kant, là, qui prétend qu'en vérité, la religion n'est qu'une étape de l'évolution de l'homme. Au début, il a cru parce qu'il était faible devant les forces de la nature. Mais lorsqu'il est arrivé à une étape de la force, il n'a plus besoin. Il s'est libéré de cette peur et donc c'est l'homme qui commande. Non, il y a des civilisations très évoluées, comme la civilisation babylonienne ou égyptienne ou autre, qui sont arrivées à maîtriser les forces de la nature et ils étaient croyants. Et ils étaient croyants. Donc ça met en cause ce que disait, donc nous avons ici Kant et Comte, Auguste Comte et Emmanuel Comte. L'un était croyant, l'autre était mécréant. Lequel qui était croyant? Auguste. Voilà. Donc, oui. Et donc l'autre était mécréant. C'est celui-là qui dit que l'homme est passé par des étapes. Et donc ça se met en cause. Donc lui, ici, il met en cause ce que a dit ce philosophe et d'autres. Il dit qu'on a trouvé des peuples qui étaient ignorants de l'art, ignorants de la science. Mais jamais on a trouvé un peuple, qu'il soit primitif ou civilisé, évolué, qui n'avait pas la notion de la croyance. D'où le fait que nous, les musulmans, nous savons, insistent et disent que le sentiment de religiosité est inné chez l'homme. Dînou, ou tadayyunu fitriyun fil insan, disent nos savants. Il peut prendre différentes formes, hein, par l'influence du milieu socio-culturel, mais il est toujours présent, sous une forme ou quelconque, où il y a la notion du sacré qui apparaît et de la croyance en une force. Déviée, elle peut être même Satan, la'anallah. Mais il y a toujours l'expression de la conviction et de la croyance qui est omniprésente. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent, nous savons, donc, dalail al-fitra. Autre argument, ce qu'ils appellent, nous savons, l'origine de la vie, ou la genèse. Et donc, c'est-à-dire, il s'agit de l'apparition de la vie et des créatures. Est-ce qu'elles ont existé par accident ou par l'action voulue d'une force? Ça, on en avait un peu parlé lorsque j'ai parlé de l'univers ne peut pas être ancien. Qidam. Et donc, ils appellent ça, lorsqu'ils développent, donc ils ont parlé Hudouth al-Alam, le fait que l'univers il est nouveau, et en même temps, ils appellent ça d'une autre manière Dalil al-Khalq, la preuve de l'origine de la vie et de la création. Et là, donc, ils citent beaucoup de sourates, telles que la sourate al-Anbiya, 21, les versets 30 et 33. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Ils disent, regardez l'univers, comment est-ce qu'il est composé, comment est-ce qu'il fonctionne. S'il n'y avait pas d'autre Dieu que Dieu, ou s'il y avait plusieurs dieux avec Dieu, vous allez constater de la désorganisation, du désordre. Et l'harmonie implique forcément qu'il y a un seul organisateur, un seul gestionnaire. Dans une société, dans une institution, si nous donnons l'autorité absolue à 3 ou 4 personnes, ça va être le désordre. On leur donne le droit de faire chacun ce qu'il veut, ça va être ce désordre. Mais lorsque on constate qu'il y a une organisation unique et que tout fonctionne parce qu'il y a un ordre qui vient de la même source, alors ça veut dire qu'il y a unicité de la direction, du gestionnaire ou de la gestion. Et donc ils disent que donc avoir ce verset. Allah, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce que ceux qui ont mécru n'ont point vu que les cieux et la terre étaient soudés, et nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes, ne croient-ils pas, donc pas? Ça c'est le fameux verset que certains savants musulmans utilisent pour accepter l'idée du Big Bang. Inna as-samawati wal-ardha kanata ratqan, c'est-à-dire qu'ils étaient soudés. فَفَتَقْنَاهُمَا. Et lorsqu'on dit, même dans le dialecte arabe populaire, فَتَقْ, c'est-à-dire déchirer, et il y a un bruit qui suit. Et donc nous avons dit, c'est ce bruit-là que les scientifiques appellent le Big Bang, ils disent, nous ne sommes pas opposés à l'idée du tout. Et puis même, ils vont plus loin, ils disent, et ce que disent même les scientifiques, nous sommes d'accord, puisqu'ils disent que l'origine de la vie est aquatique, Dieu dit, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Et après Dieu a dit, après tout ça, ils ne veulent pas croire. Voilà, on va dans votre sens. Et déjà, Dieu a annoncé avant qu'il ne le prouve. Et donc voilà, ça c'est le verset 30 de la sourate 21, qui est un verset très 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 choc en vérité au niveau de la preuve que l'univers est créé et qu'il y a un créateur. Et qui peut bien sûr être sujet d'argumentation devant les négateurs. Il y a un autre argument que j'avais cité d'une manière inclue dans le précédent, c'est qu'on appelle l'organisation universelle. Et là, vous avez vraiment beaucoup de versets. Je vous en cite quelques-uns. Le surat 2, le verset 164. Le surat Al-A'raf 7, le verset 185. Le surat Ar-Rum, le verset byzantin 30, verset 8. Jonas 10, le verset 101. Et donc, l'univers, par son organisation, est un témoin sur l'existence du créateur et du concepteur, si on veut dire ça. Donc ça c'est ils appellent ça dalil al-kawn. Ça c'est un autre argument donc cité. Parmi les arguments que nous savons cite, ils appellent ce qu'on appelle dalil al-taswiya. C'est la perfection de l'image et de la forme. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la création, on voit qu'elle est excellente à tous les niveaux, du volume, de même de l'image qu'elle offre, des proportions. Et donc, ils disent que cette belle image, ce perfectionnement dans la création est une preuve que celui qui a fait est quelqu'un d'intelligent et de parfait. C'est quelqu'un d'intelligent et de parfait. On parle ici d'une manière philosophique. Et donc, ils disent que, et cela donc montre que celui qui est à l'origine, il est encore plus parfait. On appelle ça le kamal, la perfection même. Parce que Dieu subhanahu wa ta'ala est libre de toute imperfection. Subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est parfait ne peut donner que ce qui est beau et parfait. Et donc, ici, vous avez la sourate, la prosternation, la sajda, le verset 7, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alladhi ahsana kulla shay'in khalqahu » qui a créé toute chose à la perfection et a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. Et vous avez la sourate al-A'la, « Sabbih isma rabbika al-A'la alladhi khalaqa fasawwa taswiya » Donc, ça c'est un argument. Un autre argument, c'est que nous savons appeler dalil at-taqdir. C'est-à-dire déterminer selon une certaine mesure. L'islam se caractérise comme étant une religion du juste milieu, l'wasatiyya. Et comme vous le savez, al-wasat, c'est le khayriya, c'est ce qui est le meilleur entre deux choses, toujours. Toujours. Al-wasat, c'est le meilleur entre deux excès. Que ce soit dans un sens positif ou négatif, mais l'excès même dans le positif, il peut engendrer du négatif. L'excès dans l'adoration peut mener vers le fanatisme, peut mener vers le rejet de la vie. Ce qui n'est pas conforme à l'islam. L'excès dans l'adoration et dans la dévotion peut mener à ce qu'ont exprimé ces trois compagnons lorsque chacun a fait un vœu qui dépasse les règles, les limites de l'islam. L'un dit, je fais le vœu de ne plus me marier, je fais le vœu de ne pas dormir, je fais le vœu de ne pas manger. Et le prophète sallam les a sermonnés et a considéré comme leur attitude, comme une attitude non conforme à sa sunna, à sa conduite et à l'islam. Donc même lorsqu'il s'agit d'un acte louable, s'il devient un acte extrême, il peut devenir un acte rejeté, méprisable et mauvais. Tel cet homme qui est venu à l'écoute de Rasoul Sallam, touché par les directives prophétiques, il retourne chez lui et il s'adonne à la dévotion à l'extrême. Une année après, il vient à la rencontre de Rasoul Sallam, maigre, visage jaune, de manque de vitamines et de nourriture, et lorsque le prophète ne l'a pas reconnu, alayhi salatu wassalam. Alors l'homme il a dit, « Ya Rasulallah, tu ne me reconnais pas, je suis un tel. Je suis venu à toi l'année dernière. » Le prophète lui a dit, « Pourquoi est-ce que tu es devenu comme ça ?» Il a dit, « Depuis que je t'ai quitté, je n'ai pas cessé de jeûner et de prier, et de veiller. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas salué son geste. Il lui a dit, « Pourquoi tu étais torturé de la sorte ?» L'islam ne demande pas. Donc vous voyez, donc al-khayriya tout, ils disent, nos savants, ils disent al-wasatiyya, et al-khayriya, c'est ce qui est le meilleur. Et bien, dans la création elle-même, Allah subhanahu wa ta'ala va agir de la même manière. Il va faire ce qu'on appelle, il va créer selon des proportions du juste milieu. Pas grand, pas petit, pas gros, pas maigre, pas... Vous voyez, donc ils disent, al-taqdir, c'est qu'Allah va donner à toute chose les proportions les meilleures. Et ça, ils ont ajouté donc comme argument pour montrer l'existence du Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Il a créé toute chose et lui donna une proportion bien déterminée. Surat le discernement, le Furqan, le verset 2. Donc ça, ce sont des arguments. Ces arguments que je viens de donner, ils sont issus du Coran, comme vous voyez. ils sont issus du Coran, mais en vérité, la raison suit l'analyse que le Coran lui propose. Donc, disant, je suis sûr et certain, si vous parlez et vous adressez ces arguments à un non-croyant sans lui dire qu'ils ont pour source le Coran, il va vous tendre l'oreille, il va être à votre écoute. Mais dès que vous allez dire le Coran, il va y avoir une réaction passionnelle, et là, il va se borner à refuser la vérité, et c'est ça le problème de la mécréance, c'est qu'il y a un voile sur les yeux, sur la raison, qui empêche les mécréants de voir la vérité. Mais s'ils délaissent un peu cette fausse fierté, tout individu reconnaîtra la vérité. Et donc, là, c'est une argumentation coranique, mais elle est à utiliser aussi. À utiliser, et tout en évitant tout ce qui est, peut susciter la passion chez l'autre. Maintenant, quelques arguments rationnels. On a un argument que nous savons appeler Burhan Mulazamatul Hawadith. Burhan Mulazamatul Hawadith. L'argument, le mot Burhan est un synonyme de Hujja ou de Dalil. Burhan un Barahin. Donc, c'est une preuve. Donc, Mulazamat al-Hawadith. Al-Hawadith, j'ai dit, ce sont les créatures, les contingents, nouvelles. Nous, ainsi que toute la création. Ça s'appelle Hawadith. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces créatures, elles ont des caractéristiques qui sont permanentes. Elles ne peuvent pas s'en défaire. Elles ont des caractéristiques qui sont permanentes et elles ne peuvent pas s'en défaire. Et donc, on voit que chaque cet univers visible se compose de corps, terre, eau, chaleur, froideur, etc. C'est des éléments et qui sont donc ce sont des corps. Et donc et chaque corps a des caractéristiques propres à lui qu'on appelle dans le langage de l'argumentation dogmatique musulmane a'raf. Al-a'raf, c'est la caractéristique. L'être humain, il a des a'raf. Et c'est ces a'raf que les médecins utilisent pour savoir si nous sommes malades ou non, si nous dépassons la température idéale du corps humain, si on est froid, si on est très chaud, si on est faible, etc. C'est ça ce qu'on appelle les a'raf. Ce sont des caractéristiques et des phénomènes qui sont permanentes à notre constitution et à la constitution de chaque corps, une créature existante. Et donc, ils disent... Il ne peut pas s'en défaire. Il ne peut pas s'en défaire parce qu'elles sont, comme j'ai dit, permanentes. Mulazimatan lahu. C'est pour ça qu'on a appelé ça Mulazamat al-Hawadith. Ces caractéristiques, elles sont sans discussion nouvelles. Pourquoi? Parce qu'elles sont présentes et elles sont absentes. Elles ne sont pas toujours les mêmes, elles ne sont pas toujours présentes. L'être humain, il a une humeur, il est joyeux et puis il est triste. Lorsqu'il est triste, il est plus joyeux. Lorsqu'il est joyeux, il n'est plus triste, et ainsi de suite. Fa'a a'rad idan haditha, on appelle. C'est-à-dire, elles se renouvellent. Elles ne sont pas permanentes et qui ont la qualité de la pérennité. Le baqa, daymouma. Comme l'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il est en colère, il ne cesse d'être généreux. Il ne perd pas la qualité, l'attribut de Ar-Rahma. Il ne perd pas l'attribut de Al-Karam. Tout en étant en colère et vengeur. Tandis que l'humain, lorsqu'il est généreux, il n'est pas avare. Mais lorsqu'il est avare, il n'est plus généreux. Donc, هذه أعراض ملازمة له ولكنها متجددة. Elle se renouvelle et donc elle est حادثة. On voit qu'elles ne sont pas éternelles. Quant à leur origine, puisque l'homme lui-même n'est pas éternel, et quant à leur durée, elles ne sont pas permanentes, donc elles n'ont pas la qualité de la pérennité de l'baqa. Ça, c'est l'argument. Donc, lorsqu'il y a un qui apparaît, l'autre, il disparaît. Et donc, et ces caractéristiques ne se séparent pas du corps. Le corps ne peut pas exister avant ces caractéristiques. Et les caractéristiques n'existent pas avant le corps. Nous sommes d'accord jusque-là? Il fonctionne avec ses caractéristiques. Ça, c'est un élément. Donc, Alors lorsque on voit ainsi, donc on ne peut pas dire que les corps sont anciens, puisqu'ils sont nouveaux, ils sont créés. Donc le mot ancien, ils sont pas anciens, ils sont nouveaux, c'est synonyme d'être créé. Makhluqat jadid, nouvelle veut dire créé. Donc, puisque les corps sont nouveaux, leurs caractéristiques sont nouvelles aussi, puisqu'ils les accompagnent. Et celui dont le corps est nouveau et les caractéristiques sont nouvelles, donc il a un début. Et celui qui a un début, donc il a besoin de quelqu'un qui lui a donné ce début. Et ce quelqu'un qui lui est début, selon nos savants musulmans, il dit c'est un argument rationnel, il ne peut être qu'un créateur. Donc ils ont appelé ça, donc, Dalil Mulazamat al-Hawadith, à quoi ? À leur a'raf, à leur caractéristique. Et donc le fait qu'on parle de Hawadith, de créatures nouvelles, et de caractéristiques nouvelles, d'accompagnement, et que l'un ne peut pas être antérieur à l'autre, donc ils sont tous les deux nouveaux, le corps et les caractéristiques, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a fait surgir ce corps et ses caractéristiques du néant, ce qu'on appelle en arabe de l'adam. Et celui qui a fait surgir ce corps du adam, que les scientifiques appellent le Big Bang, ne peut pas être le néant lui-même, ni le hasard lui-même. Parce qu'il s'est avéré qu'à la suite de ce Big Bang, il y a une organisation extraordinaire qui est née. Il y a un monde extraordinaire, un univers extraordinaire. Et que tout fonctionne selon des lois. C'est ce que disent les astrophysiciens. Il y a des lois qui gèrent les fonctionnements et qui protègent. Par exemple, cette planète la plus importante de l'existence, qui est la planète Terre, jusqu'à nouvel ordre. Pour nous, c'est la planète où il y a l'homme, le gérant de ce monde, au nom de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc voilà, donc ça c'est ce que proposent nos savants. Donc le deuxième argument, ils appellent ça Burhan al-Tanahi. L'argument, ils disent que l'univers est composé d'éléments finis. L'univers, il est fini selon nous les musulmans. Parce qu'il est limité dans le temps et dans l'espace. Il est déjà limité par le début de son existence. Et même limité de par sa pérennité, puisque nous croyons l'existence d'un cataclysme universel qui s'appelle Yom al-Qiyam. Ce que les non-musulmans sont en train d'affirmer qu'ils appellent le Big Grunge. Ils sont en train de le dire. Mais simplement, comme a dit le docteur Zahroun Najjar, le débat entre les musulmans et eux, est-ce que ce Big Grunge va être l'annonce de la fin de l'existence? Ou est-ce que l'univers et l'existence va être une succession de Big Bang, de Big Grunge? C'est ça, et eux, ils ne savent pas dire. Mais ils sont sûrs et certains qu'il va y avoir un Big Grunge. Ils le disent. Et le Coran l'affirme. Nahna l'affirme comme une fin. Eux, ils ne savent pas. Ils savent qu'il va advenir. Mais est-ce que c'est la fin? Là, ils n'ont pas de réponse. Et c'est normal qu'il faut une source supérieure pour leur dire ce qui va advenir après. Bien sûr que nous croyons, nous, qu'il va y avoir un monde autre. Et le hadith de Rasulallah dans le Bukhari, que nous allons être créés, donc on va être ressuscités sur une terre plate, Ka'afra al-Naqi, blanche comme la farine du pain là. Ça, on le sait, c'est clair, mais nous parlons, est-ce que c'est l'univers le même? Dieu dit, donc il va avoir autre chose. Mais eux, ils parlent, c'est-à-dire du monde lui-même, c'est terrestre, il va se reproduire, peut-être se renouveler de la même manière. Peut-être, ils n'ont pas de réponse. Donc ici, on nous dit que l'univers, nous savons dire, est composé de corps, limité de point de vue nombre, et caractéristique. Mutanahi, il est limité. Et c'est pour ça, ici, un peu, je jette la balle d'avance avant qu'on arrive aux attributs de Dieu. C'est pour ça que nous, les musulmans, et les musulmans savants, sunnites et tout, disent, faites attention, et je reviendrai à ça. Ce n'est pas pour vous influencer ni vous endoctriner que je parle de ça, mais vous allez voir que nous allons être amenés à suivre l'argument des savants musulmans qui vont interpréter certains versets, certains hadiths, du Coran lorsqu'on parle de Dieu et de l'univers. De Dieu et de l'univers, tel que le verset de la sourate Al-Mulk, A'amantum man fis sama'i, nous allons être amenés à vous donner les avis de savants musulmans de première génération de Salaf al-Saleh qui ne vont pas dans le sens qu'il s'agit de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, ils disent, on va se mettre dans une situation « Wa ta'ala Allahu amma sa'aquluhu 'uluwan kabira » et Allah subhanahu wa ta'ala, il est loin de ressembler à ce que je vais dire. L'univers, j'ai dit, est un monde fini, « alam » et l'alam, il s'appelle « alam », on dit le savant parce qu'il est « ma'loum », parce qu'il est su et perçu. Et comment est-ce qu'on peut déterminer que Dieu, qui est l'absolu, va être inclus dans le monde créé et limité dans le temps de l'espace? C'est dangereux, ils disent. Et c'est pour ça que même Salaf al-Saleh, lorsqu'on est venu à ce sorte de verset, ils ont interprété. Je ne parle pas ici de la question de la main et du pied et tout ça. Ça, c'est autre chose, on en parlera. Mais je parle du hadith qui parle de la descente. Et je parle ici du verset de la sourate Tabarak. C'est très ambigu et beaucoup. Et la vie le plus fondée, même Ibn Rajab al-Hanbali va aller dans ce sens-là et d'autres. Mais je reviendrai à ces questions dans leur contexte. Mais vous devez comprendre que lorsqu'on parle de l'univers, on parle d'un univers limité. هذا هو العالم. لأنه مخلوق. Donc nos savants disent العالم متناهي الأفراد والأعراض وأعراضها. Donc il est limité quant au corps qui le compose et quant aux éléments qui composent les corps. Ça c'est très important. Donc ils appellent ça donc Burhan al-Tanahi. Donc tout ce qui a comme caractéristique al-Nihaya, la délimitation, c'est-à-dire, il a une limite quant à ça, ses proportions, quant à ses, donc quantitativement, et quant à ses qualités. Et vu que ce monde est composé d'éléments, donc comme j'ai dit, de corps finis, avec des caractéristiques finies et limitées, eh bien, ce monde, il a un début, il a une fin, et cela implique qu'il est nouveau, et donc il a besoin nécessairement d'un créateur. C'est pour ça que je vous ai dit au début de notre intervention que les savants musulmans appellent Allah subhanahu wa ta'ala wajibu al-wujud. Celui dont l'existence est nécessaire. Il est obligatoire pour que cette existence dont on est en train d'analyser la composition ait un sens. Parce qu'il n'y a pas autre lecture. Hein. Il y a deux lectures. Soit dire que l'univers et la création est issue du hasard, soit qu'il y a un créateur. Il n'y a pas un troisième chemin. Il n'y a pas. Il n'y a que ces deux-là. L'un ou l'autre. Il n'y a pas de Dieu, il y a un Dieu. Qu'est-ce qui donne sens à l'existence? Il y a une autre existence à nous aussi. Parce que l'élément le plus important parmi les composants de l'existence, c'est l'homme. Qu'est-ce qui va donner un sens à l'existence elle-même? Ça c'est un. Et qu'est-ce qui va donner un sens à notre existence comme humain? Et qui répondra aux questions éternelles que se sont posées les philosophes en dehors du cadre de la croyance, d'où je suis venu, pourquoi je suis venu, où vais-je? Ou on va faire comme le fameux poète existentialiste arabe Ilya Abu Mahdi, qui a vécu en Amérique latine, qui a été influencé par ce courant, hein, on a des shuara qu'on appelait les poètes al-Mahjar, de l'immigration, de l'exil, qui ont vécu surtout de Liban, de Palestine, de Syrie, qui sont allés vivre, s'installer en Amérique latine, en Argentine, dans ces régions-là. Et donc, et ils étaient influencés par la pensée existentialiste. Alors, il a fait un poème qui s'intitulait « Lestu Adri ». Je ne sais pas. Alors, il dit « Lestu Adri ». Min ayna ataytu limadha ataytu. C'est pas d'où je suis venu, pourquoi je suis venu. Walakinani wajadtu tariqan amami fama shaytu. Et j'ai vu devant moi un chemin et j'étais obligé de marcher. Et il se pose après la même question, d'où je suis venu, pourquoi je suis venu? Et il répond, Lestu Adri. Son poème en entier, c'est Lestu Adri. Mais alors, si tu ne connais pas, alors cherche la source qui te donne l'information. Mais c'est l'être humain qui est borné. Il ne veut pas. Et donc, voilà, c'est pour ça que donc, et l'univers, donc, qui est nouveau, il a besoin de Moujid. Quelqu'un qui lui donne une existence. Donc ça, c'est un argument autre rationnel que nos savants ont cité. Il y a un autre argument dernier que je vais citer, c'est le besoin de se multiplier pour perdurer. Le besoin de se multiplier pour perdurer. Ils disent que l'univers a besoin de se multiplier. Nous les humains, on a besoin de se multiplier, sinon on va disparaître. Et tous les éléments qui composent l'univers, ils ont besoin de se multiplier, de se régénérer. Sinon ils disparaissent. Et alors ils disent, tout individu, l'individu ici ne veut pas dire l'humain, hein, dans la langue arabe, l'individu veut dire toute chose. Comme le terme shay. Shay, ce n'est pas un terme péjoratif en arabe, parce que même Dieu, subhanahu wa ta'ala, on dit shay. Laisa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Donc ils disent ici, donc, puisque cet univers a besoin de se multiplier pour pouvoir perdurer, parce qu'il est limité quant à ses corps et aux caractéristiques de ses corps. Wa mutanahi fi adadihi wa fi afradihi wa fi sifatihi. Donc il est limité quant à ce corps qui le compose, quant aux individus qui composent ces corps et quant aux caractéristiques de chaque corps. L'A'raf. Donc il ne peut pas exister par lui-même. Moi, je ne peux pas exister par moi-même. J'existe à travers ma descendance. Et chacun d'entre nous, c'est ainsi. On va perpétuer notre existence, jusqu'à ce que Dieu subhanahu wa ta'ala décide que la fin du monde arrive, à travers notre descendance. On s'est perpétué ainsi. Et donc on a besoin donc d'exister parce qu'on ne peut pas exister par nous-mêmes. Et vu que l'univers a besoin de se multiplier pour ne pas disparaître, donc il est nouveau. Donc il subit la volonté de quelqu'un qui est en train de faire disparaître ses éléments et ses composantes. Et une force qui est en train de le réduire. Là, on parle de Dieu directement. Il y a une force qui a imposé à chaque corps composant l'univers de la réduction. Al-Maut. Alladhi khalaq al-Mauta. Et regardez dans ce verset, Dieu n'a pas commencé par la vie, il a commencé par la mort. Pour dire, c'est je vous humilie par la mort. J'ai la force de vous faire disparaître. Donc j'ai la force. Je suis au-dessus de vous. Vous subissez ma loi. Et c'est pour ça que le Prophète a commencé par Alladhi khalaq al-Mauta wal hayata. Maut. Et donc il y a une force qui fait subir à l'homme et aux autres créatures la disparition, d'où notre besoin de nous multiplier. Sinon, on va disparaître. Et viendra un temps où il va nous faire disparaître tous. On ne pourra plus même se multiplier. Donc, ça prouve l'existence d'une puissance en dehors de ce monde créé et limité. Et cette force n'est autre pour les musulmans et les croyants que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Voilà, ça c'est un petit aperçu pour que vous voyez comment les savants musulmans argumentaient pour prouver l'existence de Dieu subhanahu wa ta'ala à travers certains ouvrages de Aqaïd l'Islamiyya. Actuellement, on utilise plus la science parce que nous sommes dans une époque où l'expérience joue beaucoup. Et donc, bien sûr, c'est un des moyens de la connaissance que l'islam, bien sûr, accepte. Et elle est convenable pour le discours de l'époque. Voilà donc pour cette question. On peut s'arrêter 5 minutes pour un peu digérer ça. Et si vous avez des questions libres, allez-y.